Chapitre 26. Une brèche dans la pierre. Avienda observait le grand terrain devant le manoir, où une multitude de gens se préparaient au départ. Pour des habitants des terres mouillées, les hommes et les femmes de Bachéré étaient très disciplinés. Avec une grande rigueur, ils démontaient leurs tentes et préparaient ce qu'ils comptaient emporter. Cela dit, comparé aux Aïels, les autres gens des terres mouillées, ceux qui n'étaient pas de vrais soldats, se révélait d'une lamentable nullité. Les femmes allaient et venaient en gesticulant, comme si elles étaient sûres de laisser derrière elles une tâche inachevée ou des objets non emballés. Les estafettes couraient avec les enfants, histoire de sembler occupées et de ne rien avoir à faire. Quant aux tentes et à l'équipement des civils, on les pliait et les rassemblait avec une lenteur d'escargot. Pour transporter tout ça, il faudrait une kyrielle de chevaux, de chariots et de conducteurs. Avienda secoua la tête. Les Aïels, eux, trimballaient exclusivement ce qu'ils pouvaient porter. Dans leurs troupes en campagne, on ne trouvait que des guerriers et des matriarches. Et quand on avait besoin d'une intendance, tous les ouvriers et les artisans étaient formés à se préparer au départ en un clin d'œil. Comme souvent, c'était une affaire d'honneur. Chaque personne dans un clan ou une tribu devait être capable de se gérer seule, sans ralentir les autres. Avienda s'en retourna à son ouvrage. Un jour comme celui-là, les seules personnes vraiment sans honneur étaient celles qui ne travaillaient pas. Plongeant un index dans un seau plein d'eau, Avienda l'en retira, le plaça au-dessus d'un deuxième seau et attendit qu'une goutte, une seule, c'était capital, soit tombée dedans. Puis elle recommença l'opération. Un type de punition qu'un habitant des terres mouillées aurait jugé grotesque. Estimant que c'était un travail facile, il se serait adossé à la façade du manoir, histoire de se fatiguer le moins possible. Vider un seau et remplir l'autre de cette manière lui aurait paru être une corvée bien douce, voire une sinécure. C'était à cause de la paresse naturelle de ces gens. Plutôt que de porter des pierres, ils auraient opté pour remplir un seau au goutte à goutte. Mais charrier des pierres, ça impliquait de produire un effort, une très bonne chose pour le corps et l'esprit. Transférer de l'eau, ça n'avait pas de sens. L'inutilité incarnée. En travaillant, Avienda n'avait aucune raison de tendre une jambe ou de faire bouger un muscle. Et elle s'adonnait à ce jeu stupide pendant que tous les autres démontaient le camp. Un point qui rendait la punition 10 fois plus humiliante. Pour chaque minute où elle n'aidait pas, son taux augmentait, et elle ne pouvait rien y faire. Des gouttes et encore des gouttes. Bien entendu, ce calvaire l'enrageait. Ensuite, elle avait honte de sa réaction. En n'importe quelle circonstance, il ne fallait pas se laisser dominer par ses émotions. La clé, dans son cas, c'était de rester patiente et de comprendre pourquoi on la punissait. Mais aborder la question lui donnait envie de hurler. Combien de fois devrait-elle arriver aux mêmes conclusions? Peut-être était-elle trop bête pour comprendre. Dans ce cas, elle ne méritait pas de devenir une matriarche. Elle replongea le doigt dans l'eau et transféra une nouvelle goutte. De plus en plus, elle détestait l'influence que ses punitions avaient sur elle. Enfin, elle était une guerrière, même si elle n'avait plus brandi une lance depuis longtemps. Les brimades ne lui faisaient pas plus peur que la douleur. Mais au fil des jours, elle commençait à redouter de se décourager au point de devenir aussi inutile que quelqu'un qui passait son temps à regarder le sable. Devenir une matriarche, c'était tout le sens de sa vie. Une découverte étonnante, parce qu'elle n'aurait jamais cru désirer quelque chose plus passionnément qu'à l'époque où elle rêvait de recevoir les lances d'une promise. Ces derniers mois, tandis qu'elle étudiait sous la coupe des matriarches, son respect pour elle grandissant, elle avait fini par se considérer comme leur égale. Une bergère qui aidait d'autres bergères à guider les Aïels durant une période mortellement dangereuse. L'ultime bataille serait une épreuve comme aucun Aïel n'en avait jamais connue. Pendant qu'Amis et les autres œuvraient inlassablement pour le bien de leurs compatriotes, leurs récentes recrues, les fesses dans la poussière, faisaient l'andouille avec des seaux d'eau.
« Tu vas bien ?»
demanda une voix. Alarmée, Avienda voulut saisir son couteau à la vitesse de l'éclair. Du coup, elle faillit renverser ses seaux. À l'ombre du manoir, une femme aux cheveux noirs très courts la regardait. Les bras croisés, Mine Farchaud arborait une veste couleur cobalt richement brodée. Autour du cou, elle portait un foulard. Avienda lâcha son couteau. Les gens des terres mouillées pouvaient approcher d'elle sans qu'elle les entende? C'était nouveau ça, et pas brillant du tout.
« Je vais bien, »
répondit-elle, en s'efforçant de ne pas rougir. Son ton et son langage corporel auraient dû indiquer qu'elle ne souhaitait pas s'humilier en menant une conversation. Mais Mine ne parut pas s'en apercevoir. Au contraire, elle regarda par-dessus son épaule et lâcha.
Tu n'as rien à faire dans le camp ?
Cette fois, impossible de ne pas rougir.
Je fais ce que je dois faire.
Min acquiesça, et Avienda se concentra pour réguler sa respiration. Face à cette femme, elle ne pouvait pas exploser. D'autant moins que sa première sœur lui avait demandé d'être conciliante avec Min. Bien, alors, inutile de relever l'offense. Min ne savait pas de quoi elle parlait.
« J'avais envie de converser un peu avec toi, »
dit-elle, toujours en regardant le camp.
« Je ne sais pas trop avec qui fraterniser. Je me méfie des Aes Sedai, tout comme Rand. Mais lui, il ne fait confiance à personne. Même pas à moi, peut-être. »
Levant les yeux, Avienda vit que Min suivait Rand Altor du regard, tandis qu'il arpentait le camp dans sa veste noire, ses cheveux roux flamboyant sous la lumière de l'après-midi. Au milieu des hommes de Bachéré, on eût dit un géant parmi des nains. Avienda avait eu vent de l'attaque de ses mirages la veille, une des âmes damnées de l'aveugleur. Dommage de ne pas avoir pu voir ce monstre avant que Rand Altor l'ait tué. Rien qu'à cette idée, la future matriarche frissonna. Le Karakarn s'était battu, et il avait gagné. Même s'il jouait aux ahuris la plupart du temps, c'était un guerrier compétent et rudement chanceux. Quel homme vivant pouvait se vanter d'avoir vaincu et abattu autant de rejetés ? En lui, l'honneur ne venait jamais à manquer. Ce dernier combat lui avait laissé des plaies que Layel ne comprenait pas encore. Sa douleur, elle la sentait, et elle l'avait aussi captée pendant son duel contre ses mirages, en pensant que c'était l'effet d'un cauchemar, hélas. Mais elle n'avait pas tardé à rectifier cette erreur. Aucun mauvais songe ne pouvait être si terrible. En fermant les yeux, elle sentait toujours les vestiges de cette incroyable douleur. Alors que la souffrance le déchiquetait de l'intérieur, Rand Altor s'était abandonné à une étrange frénésie. Avienda avait donné l'alerte, mais pas assez vite. Pour cette erreur, elle avait un taux envers le jeune homme. Mais elle s'occuperait de ça quand elle en aurait fini avec ses punitions, si ça arrivait un jour.
« Rand Altor résoudra tous ses problèmes »,
assura Avienda en retrempant son index dans l'eau.
« Comment peux-tu dire ça ? Sens-tu l'étendue de sa souffrance ?»«
Oui,
à tout moment et en toutes circonstances. Mais il doit surmonter ses propres épreuves, comme je fais face aux miennes. Un jour, nous les dépasserons peut-être ensemble. » Mais nous n'en sommes pas encore là. D'abord, je dois devenir son égal. Pas question de me présenter devant lui comme une inférieure.
Alors que Min la regardait, Avienda frissonna. Quelles images voyait cette femme ? Ce qu'elle annonçait, affirmait-on, se produisait toujours.
Tu n'es pas ce que j'attendais,
finit par dire Min.
Je t'ai déçu ? Non, ce n'est pas ça.
Min eut un petit rire.
En fait, je me trompais à ton sujet. Après cette nuit à Kemli, nous nous avons, eh bien, lié et rende. Je ne savais plus que penser. Je me sentais proche de toi, mais distante en même temps.
Elle haussa les épaules.
Je crois que je m'attendais à ce que tu viennes me voir dès ton arrivée au camp. Nous avions des choses à nous dire. Comme tu ne t'es pas montré, j'ai eu peur de t'avoir offensé. Tu n'as aucun taux envers moi,
assura Avienda.
Très bien,
dit Min.
J'ai encore peur, parfois, que nous en venions à une confrontation. Et quel bien ça pourrait nous faire ? Je n'en sais rien. Je voyais quelque chose de très Aiel, comme un duel d'honneur, pour Rand. Se battre pour un homme ?
Raya Avienda.
Qui ferait une chose pareille ? Si tu avais un tort envers moi, je pourrais exiger que nous dansions avec les lances, à condition que tu sois une promise. Et si j'en étais encore une ? On pourrait s'affronter au couteau, mais ce ne serait pas un combat à la régulière. Quel honneur y aurait-il à étriper une incompétente ?
Min rougit comme si Avienda venait de l'insulter. Quelle étrange réaction.
Je ne peux pas répondre,
fit Min en tirant de sa manche un couteau qu'elle fit adroitement tourner sur les phalanges de sa main gauche.
Je ne suis pas vraiment sans défense.
En un éclair, elle fit disparaître l'arme dans son autre manche. Pourquoi les gens des terres mouillées faisaient-ils tant d'esbroufe avec leurs lames ? Tom Merilyn avait la même manie agaçante. Min ignorait-elle qu'Avienda aurait eu le temps de lui trancher la gorge deux fois pendant qu'elle faisait l'idiote avec son couteau, comme une artiste des rues ? Layel garda ses réflexions pour elle. Min était fière de son adresse. Et il était inutile de l'humilier.
« Tout ça est sans importance, Min Farcho. Je ne me battrai pas contre toi, sauf si tu m'insultes gravement. Ma première sœur te tient pour une amie, et j'aimerais pouvoir en dire autant. »« Parfait. »
Min croisa les bras et regarda de nouveau Rand dans le lointain.
« Franchement, je trouve que c'est une bonne chose. Il faut avouer que je n'aime pas beaucoup l'idée de partager. »
Avienda hésita, puis elle plongea l'index dans un seau.
« Même réflexion pour moi. »
Enfin, surtout avec une femme qu'elle ne connaissait pas bien.
« Alors, que faisons-nous ? On continue comme avant, »
répondit Avienda.
« Tu as ce que tu désires, et moi, je suis occupé ailleurs. Quand ça changera, te le ferai savoir. » « C'est, eh bien, très direct de ta part, »
fit mine troublée.
« Tu es occupé ailleurs ? Par exemple, à plonger le doigt dans un seau ?»
Avienda s'empourpra de nouveau.
« C'est ça, oui. Une sacrée occupation. Maintenant, si tu veux bien m'excuser. »
La hyène se leva et s'éloigna, oubliant ses seaux. Elle n'aurait pas dû s'énerver, mais que faire ? Mine avait lourdement insisté sur sa punition. Les matriarches attendaient d'elle quelque chose qu'elle ne parvenait pas à deviner. Quant à Randall Thor, il se mettait sans cesse en danger, et elle ne pouvait pas lever un doigt pour l'aider. À un moment, on ne pouvait plus supporter la pression. Avienda traversa le grand terrain du manoir en serrant et desserrant le poing et en prenant garde à rester le plus loin possible du Karakarn. Avec sa chance, aujourd'hui, il risquait de remarquer son index tout plissé et de demander pourquoi elle l'avait immergé ainsi. S'il découvrait que les matriarches la punissaient, il ruerait sans doute dans les brancards et passerait pour un imbécile. Les hommes étaient ainsi, et ils ne faisaient pas exception à la règle. Sur le sol, des carrés plus sombres indiquaient les endroits où des tentes s'étaient dressées. Partout, des gens allaient et venaient frénétiquement. Avienda dépassa une rangée de soldats qui faisaient la chaîne avec des sacs de grains pour les charger sur un chariot qui serait tracté par deux solides chevaux. Elle pressa le pas, se concentrant pour ne pas exploser. À la vérité, si elle s'était écoutée, elle se serait laissée aller à commettre un truc idiot, du genre que Randall Thor adorait faire. Pourquoi ? Pourquoi ne parvenait-elle pas à saisir ce qu'elle faisait de travers ? Dans le camp, les autres Aiel semblaient aussi ignorants qu'elle. Au moins, ils ne bavassaient pas lourdement sur ses punitions. Quand elle était encore une promise, elle avait vu plus d'une fois des brimades de ce genre. Mais elle ne se serait jamais mêlée à des affaires de matriarche. Contournant le chariot, elle s'avisa qu'elle fonçait droit sur Randall Thor en personne. Plus grand qu'eux d'une bonne tête, il s'entretenait avec trois intendants de Davram Bachéré. L'un d'eux, doté d'une longue moustache noire, désigna l'endroit où étaient attachés les chevaux et dit quelques mots. Dès qu'il l'aperçut, Randall Thor fit signe à Avienda de le rejoindre, mais elle obliqua vers le camp des Aiel, lui tournant le dos. Les dents serrées, elle tenta en vain de se calmer. N'avait-elle pas le droit de s'énerver, surtout quand c'était contre elle-même ? Le monde approchait de sa fin, et elle passait son temps à écoper de punitions. Devant elle, près d'un petit tas de tentes Aiel pliées, Avienda remarqua un trio de matriarches. Amis, Beyr et Melaine contemplaient pensivement le ballot équipé d'un harnais pour qu'on puisse le porter sur le dos. Avienda aurait dû retourner à ses seaux et se remettre à l'ouvrage. Mais elle n'en fit rien. Comme un enfant qui attaque un chat sauvage avec un bâton, elle rejoignit les matriarches en quelques enjambées furibardes.
« Avienda ?»
s'étonna Beyr.
« Tu en as terminé pour aujourd'hui ?»«
Non, pas du tout, »
dit la jeune Aiel. Elle se campa devant les trois femmes, les poings plaqués sur les hanches. Le vent entr'ouvrait son chemisier, mais elle ne s'en soucia pas. Si frénétique qu'il soit, les guerriers et les hommes de Bachéré se tenaient le plus loin possible du petit groupe.
« Alors que fais-tu ici ?»
demanda Beyr.
« Tu n'apprends pas assez vite, »
fit Amis en secouant sa tête blanche.
« Pas assez vite ?»
s'insurgea Avienda.
« Tout ce que vous vouliez m'enseigner, je l'ai assimilé très rapidement. J'ai appris par cœur vos leçons, répété tous les gestes, accompli toutes les missions. Enfin, j'ai répondu à vos questions sans jamais me tromper. Je le sais, puisque vous approuviez du chef chaque fois. »
Avienda foudroya les trois femmes du regard avant de continuer.
« Je canalise mieux que n'importe quelle aiel en ce monde. Abandonnant les lances, j'ai pris avec bonheur une place parmi vous. Fidèle à mon devoir, j'ai agi sans jamais perdre de vue l'honneur. Et vous continuez à me punir. Mais j'en ai assez. Si vous ne me dites pas ce que vous me voulez, renvoyez-moi. »
Logiquement, les matriarches auraient dû exploser de colère. Très déçues, elles auraient dû rappeler qu'une apprentie n'avait pas à discuter les ordres de ses supérieurs. Au minimum, des punitions plus dures encore sanctionneraient ce moment d'insubordination. Amis regarda ses deux compagnes.
« Ce n'est pas nous qui te punissons, mon enfant, »
dit-elle, pesant soigneusement ses mots.
« Ces châtiments, c'est toi qui te les inflige. »«
Quoi que j'ai fait, »
se défendit Avienda,
« ça ne mérite pas que vous me traitiez comme une datsang. En me faisant ça, vous vous couvrez de honte. »«
Mon enfant, »
demanda Amis, les yeux rivés dans ceux d'Avienda,
« rejettes-tu nos punitions ?»«
Oui, je les rejette. »
« Tu penses que tes enjeux sont aussi importants que les nôtres ?»
s'enquit Beyr, une main volant devant son visage comme si elle voulait le masquer.
« Tu crois être notre égal,
Le régal ?
Pensa Avienda, soudain paniqué.
Je ne le suis pas. Il me reste des années d'études. Que suis-je en train de faire ?
Pouvait-elle reculer, implorer le pardon de ses femmes et assumer son trop ? Après, elle s'en retournerait auprès de ses sceaux, en vidant un pour remplir l'autre. Oui, c'était le mieux à faire. Filet doux et...
Je ne vois plus de raison d'étudier,
s'entendit-elle dire.
Si ces punitions grotesques sont tout ce qu'il vous reste à m'apprendre, j'ai assimilé ce qui comptait, et je suis prête à me joindre à vous.
Avienda serra les dents, s'attendant à un déchaînement de fureur incrédule. Pour qui se prenait-elle ? Tout ça parce que les propos ridicules de Mine avaient tapé sur les nerfs ? Soudain, Bear éclata de rire. Un rire sacrément puissant pour une si petite femme. Mais Lane imita sa collègue et se plia en deux d'hilarité. Pas trop, à cause de sa grossesse.
Elle a mis encore plus longtemps que toi, Amis. Je n'ai jamais vu une fille si têtue. Bienvenue, chère sœur,
dit Amis, avec dans le regard une douceur inédite. Avienda crut avoir mal entendu.
Pardon ? Tu es l'une des nôtres désormais,
dit Bear.
Ou tu le seras très bientôt. Mais j'ai défié votre autorité. Une matriarche ne doit pas permettre à ses collègues de la dominer,
dit Amis.
Si elle arrive parmi nous en pensant comme une apprentie, elle ne sera jamais une vraie matriarche.
Bey regarda Randaltor en grande conversation avec sa reine.
Je n'avais jamais mesuré l'importance de notre façon de faire avant d'avoir l'occasion d'étudier les Aes Sedai. Chez elles, les plus humbles tendent la patte et implorent comme des chiots. Leurs supérieurs les ignorent, comme si elles risquaient de se salir à leur contact. À se demander comment ces sœurs font à réussir de temps en temps quelque chose.
Chez nous, il y a aussi une hiérarchie,
dit Avienda.
Enfin, je crois.
Une hiérarchie ?
Répéta Amis, perplexe.
Certaines d'entre nous ont plus d'honneur que d'autres, le fruit de la sagesse, des actes et de l'expérience.
Mais il est essentiel,
intervint Mélaine, un index levé.
Et même vital, que chaque matriarche soit résolue à défendre son point de vue. Si elle croit avoir raison, pas question de se laisser mettre à l'écart, y compris par d'autres matriarches, si sages ou âgées soient-elles.
Aucune femme ne peut nous rejoindre sans avoir déclaré qu'elle y est prête,
reprit Amis.
Elle doit se sentir notre égale.
Une punition n'en est pas vraiment une, sauf quand on l'accepte,
ajouta Bear, toujours souriante.
À nos yeux, tu es prête depuis des semaines, mais tu continuais à obéir comme une tête de mule.
J'ai commencé à te croire trop orgueilleuse, mon enfant,
fit Mélaine avec un gentil sourire.
Mon enfant, c'est terminé,
rappela Amis.
Pas tout à fait,
objecta Bear.
Il reste une chose à faire.
Avienda en resta sonnée. Ses femmes avaient dit qu'elle n'apprenait pas assez vite. Apprendre à s'affirmer. Voilà le sens caché qu'elle cherchait depuis le début. Dans sa vie d'avant, elle n'avait jamais laissé personne la malmener. Mais ces trois femmes n'étaient pas n'importe qui. Des matriarches face à une humble apprentie. Que serait-il arrivé si Mine ne l'avait pas fait sortir de ses gonds? Elle devrait la remercier, même si elle n'avait pas agi volontairement.
Il reste une chose à faire. Que dois-je encore accomplir?
Demanda Avienda.
Allez à Ruidéan,
répondit Bear. Bien entendu. Au cours de sa vie, une femme allait deux fois dans la plus sacrée des villes. Au moment où elle devenait une apprentie et quand elle accédait au statut de matriarche.
Les choses seront différentes cette fois,
dit Mélaine.
Ruidéan a beaucoup changé.
Ce n'est pas une raison pour tourner le dos à d'antiques coutumes,
riposta Bear.
La ville est ouverte, certes, mais nul n'est assez fou pour s'aventurer parmi les colonnes de verre. Avienda, tu devras...
Bear,
coupa Amis.
Si ça ne te dérange pas, j'aimerais mieux le lui dire.
Bear hésita, puis hocha la tête.
Oui, bien entendu. Ce n'est que justice. Nous allons te tourner le dos, Avienda. Et nous ne te verrons plus jusqu'à ce que tu sois de retour de ton long voyage. Une sœur qui revient parmi les siennes.
Une sœur que nous aurons oublié avoir connue,
conclut Mélaine en souriant. Alors qu'elle s'éloignait en compagnie de Bear, Amis prit la direction du site de voyage. Surprise, Avienda dut presser le pas pour la rattraper.
Tu peux porter tes vêtements cette fois,
dit Amis.
Ce sera le signe de ton statut. En principe, je te conseillerais d'aller à pied jusqu'à Ruidéan, même si nous savons voyager à présent. Mais il faut parfois oublier les coutumes. Cela dit, tu ne devras pas voyager directement jusqu'à la ville. Je te suggère de te déplacer ainsi jusqu'à la forteresse des Rocs Froids, puis de continuer à pied. Pour que ton voyage soit enrichissant, tu devras passer un moment dans la tierce terre. J'aurai besoin d'une outre d'eau et de vivres. Tout ça t'attend à la forteresse. Nous avions prévu que tu franchirais le pas, et même plus vite que ça, si on pense à toutes les perches que nous t'avons tendues.
Sous le regard de sa collègue, Avienda baissa les yeux.
Tu n'as aucune raison d'avoir honte. Ce fardeau, c'est sur nous qu'il pèse. Malgré les taquineries de Baer, tu t'en es bien sorti. Certaines femmes subissent des punitions grotesques pendant des mois avant de se rebeller. Nous avons dû être très durs, mon enfant. Plus qu'avec n'importe quel apprenti prêtre que j'ai connu. Mais le temps presse, sais-tu?
Je comprends, oui. Merci pour tout.
Amis soupira.
Tu nous as forcés à être très imaginatives. N'oublie jamais cette période ni la honte que tu as ressentie. Parce que c'est celle que subit chaque Datsang, sans avoir de porte de sortie, contrairement à toi. Que faites-vous si une apprentie déclare être prête après seulement quelques mois de formation? On la fouette, puis on l'envoie creuser des trous et les reboucher. Mais à ma connaissance, ça n'est jamais arrivé. Encore qu'avec Sevana, ce n'est pas passé loin.
Avienda s'était souvent demandé pourquoi les matriarches avaient accepté la Shaido sans regimber. Maintenant, elle savait. La déclaration avait suffi, forçant Amis et les autres à se résigner. Amis tira sur son fichu.
Les promises qui veillent sur le site de voyage auront un paquet pour toi. Quand tu seras à Ruidéan, va jusqu'au centre, où tu trouveras les colonnes de verre. Traverse-les, puis reviens ici. Profite de tes longues journées de marche. Nous t'avons poussé si dur pour que tu puisses avoir ce répit pour méditer. Très certainement, ce sera le dernier avant longtemps.
Avienda hocha la tête.
La bataille approche. C'est ça, oui. Quand tu auras traversé les colonnes, reviens ici très vite. Nous devrons parler de la meilleure manière de gérer le Karakarn. Depuis hier, il a changé.
Je comprends. Pars, et surtout, reviens.
Amis avait insisté sur son dernier mot. Certaines femmes ne survivaient pas à Ruidéan. Avienda chercha le regard de la matriarche et acquiesça. Pour elle, et à plus d'un titre, Amis avait été une seconde mère. Après un ultime et ô combien rare sourire, la matriarche tourna le dos à Avienda, comme les deux autres un peu plus tôt. La jeune Aïel jeta un dernier coup d'œil en direction du manoir, où Rand parlait toujours avec les intendants. Le moignon dans son dos, il agitait l'autre bras, ponctuant une conversation animée. Même s'il ne regardait pas vers elle, l'Aïel lui sourit.
« Je reviendrai pour toi. »
Gagnant le site de voyage, elle récupéra son paquetage, puis ouvrit un portail qui la déposerait à une saine distance de la forteresse des Rocs Froids, près d'une formation rocheuse appelée la Lance de la Promise. De là, elle foncerait jusqu'à la forteresse, puis se préparerait. Le portail s'ouvrit sur l'air sec typique du désert. Avienda franchit le seuil, le cœur enfin débordant de joie après ce qu'il venait de se passer. Son honneur était de retour.
« Je suis sorti de la ville par une poterne qui donnait sur le fleuve, »
dit Chemerine, en s'inclinant devant les Aes Sedai pressés sous la tente.
« En réalité, ça n'a pas été si difficile, une fois que j'ai eu quitté la tour pour me retrouver en ville. » Mais je n'ai pas osé emprunter un pont. Il ne fallait pas que la chère d'Amerline sache ce que je faisais. »
Les bras croisés, Romanda observait son ancienne collègue. À la lumière des flammes de deux lampes de cuivre, six sœurs écoutaient le récit de la fugitive. Bien que Romanda ait tout fait pour qu'elle ne soit pas informée de la rencontre, Lelaine était là. Contrairement aux espérances de sa rivale, la mince sœur bleue n'avait pas été occupée par sa campagne de promotion personnelle au point de dédaigner un événement si anodin. Suan était là aussi. Apparemment, elle s'était accrochée à l'Elaine comme les bernacles à la coque d'un navire. En digne sœur jaune, la jade de la guérison, Romanda se réjouissait qu'on ait découvert une façon de soigner les femmes calmées. Cela dit, dans un coin de sa tête, elle déplorait que Suan en ait bénéficié, comme si avoir l'Elaine sur les bras ne suffisait pas. Contrairement à beaucoup de femmes dans le camp, Romanda n'avait pas oublié le caractère obstiné de la chair d'Amerline déchue. Moins puissante dans le pouvoir, Suan Sanche restait sûrement égale à elle-même, en matière de machination et de coups tordus. Sheriam était présente aussi, bien entendu, et elle avait pris place à côté de l'Elaine. De plus en plus renfermée sur elle-même, elle conservait à peine la dignité minimale d'une Aes Sedai. Une sacrée imbécile. Il fallait la destituer, tout le monde en avait conscience. Si Egwen revenait un jour, Romanda espérait que oui, ne serait-ce que pour saboter les plans de l'Elaine, ce serait le moment idéal pour choisir une nouvelle gardienne. Magla complétait l'assistance. Sans se laisser emporter, évidemment, Romanda et Lelaine s'étaient querellées sur l'identité de la première sœur qui interrogerait Chemérine. La seule solution équitable, avait-elle conclu, serait qu'elles s'en chargent ensemble. Chemérine appartenant à l'âge à jaune, Romanda avait pu organiser la réunion sous sa tente. Voir Lelaine débouler avec Siouan et Shiryam dans son sillage avait été un sacré choc. Mais le nombre maximal d'assistantes n'avait jamais été fixé. Du coup, Romanda n'avait que Magla avec elle. Assise sur son autre flanc, la sœur aux épaules carrées écoutait la confession de Chemérine. Romanda aurait-elle dû demander que quelqu'un d'autre vienne? Retarder l'audition pour ça aurait paru très suspect. Audition était le bon terme, car il ne s'agissait pas vraiment d'un interrogatoire. Sans tenter de se dérober, Chemérine répondait à toutes les questions. Installée sur un tabouret, elle avait refusé qu'on y ajoute un coussin. En de très longues années, Romanda n'avait jamais vu une femme plus déterminée à se punir elle-même. La pauvre petite.
« Petite, mon œil !» rectifia Romanda. « Une vraie Aes Sedai, quoi qu'elle en dise. Elaïda, sois maudite de l'avoir transformée en une telle loque !»
Chemérine avait appartenu à l'âge à jaune. Non, elle en faisait toujours partie. Elle parlait depuis presque une heure, n'éludant aucune question sur ce qui se passait à la Tour Blanche. Siouan avait été la première à vouloir en savoir plus sur son évasion.
« S'il te plaît, Aes Sedai, pardonne-moi d'avoir cherché du travail dans le camp sans être venu te voir. Mais en fuyant la tour, j'ai violé la loi. Comme une acceptée qui sort sans permission, je suis une fugitive. Désormais, j'étais sûr de récolter une montagne de punitions. Je suis resté dans le coin parce que je le connais bien. Me résigner à partir était bien trop dur. Quand votre armée est arrivée, j'y ai vu une occasion de gagner ma vie et je l'ai saisie. Alors, par pitié, ne me chassez pas. Je ne suis pas dangereuse. Mon but, c'est de vivre comme une femme normale, sans recourir à mes... capacités.
« Tu es une Aes Sedai !»
dit Romanda, s'efforçant de ne pas laisser sa voix trahir son indignation. L'état de cette femme confirmait les propos d'Egwene sur la dictature établie par Elaïda à la Tour Blanche.
« Ce qu'en dit Elaïda n'a aucune importance. »
« Je... »
Chemérine se contenta de hocher la tête. Parmi les sœurs, elle n'avait jamais été la plus souveraine et dominatrice. Mais la voir tomber si bas faisait mal au cœur.
Parle-moi un peu de cette poterne,
dit Siouan en se penchant en avant sur son siège.
Où se trouve-t-elle?
Dans le sud-ouest de la cité, Aes Sedai. En partant des antiques statues d'Eleyan Al-Landerin et de ses champions, il y a 5 minutes à pied en direction de l'est. Mais c'est un passage très étroit.
Chemérine hésita, soudain très nerveuse.
On ne pourrait pas faire passer une armée par là. Je connais son existence parce que j'étais chargé de m'occuper des mendiants qui peuplent cette zone.
« Je veux quand même avoir un plan, »
dit Siouan. Embarrassée, elle regarda Lelaine.
« Enfin, je pense que nous devrions en avoir un. »«
Une bonne idée, »
lâcha Lelaine d'un ton faussement magnanime.
« Moi, je veux en savoir plus sur ta situation, »
dit Magla à Chemérine.
« Comment Elaïda a-t-elle pu penser que destituer une sœur était sage ? Egwene a parlé de ce drame et j'en ai pas cru mes oreilles. Que pensait faire Elaïda ?»«
Je... » ne peut rien dire sur les pensées de la chère d'Amerline.
Chemérine se ratatina quand 5 perdus la fixèrent méchamment. Une réaction prévisible, lorsqu'on donnait à Elaïda du chère d'Amerline. Romanda ne participa pas à cette curée. Une petite silhouette rampait sous le tapis de sol en toile de la tente, partant d'un côté pour atteindre le centre de la salle. Un criquet? Non, la bestiole était trop minuscule.
« Cela dit, »
reprit Magla,
« tu as bien dû faire quelque chose pour pousser Elaïda à ses extrémités. » Un forfait qui justifie une telle brimade.
« Je... »
commença Chemérine. Bizarrement, son regard était toujours rivé sur Siouan.
« Petite idiote !»
pensa Romanda. Au fond, Elaïda avait simplement tenté de soulager le monde d'un fardeau. Chemérine n'aurait jamais dû recevoir le châle. Cela dit, en refaire une acceptée n'était pas une mesure suffisante. La chère d'Amerline n'aurait pas dû disposer de tant de pouvoir. Oui, il y avait sous la toile une créature qui se frayait un chemin vers le centre de l'espace. Une petite bosse qui avançait de manière saccadée.
« Je me suis montré faible en sa présence, »
répondit enfin Chemérine.
« Nous parlions de... d'événements qui ont lieu dans le monde. Des choses qui me révulsent. Selon Elaïda, je n'ai pas fait montre de la dignité requise chez une Aes Sedai.
C'est tout ?»
demanda Lelaine.
« Tu n'as pas comploté contre elle ? Tu ne l'as pas contredite en public ?»
Chemérine secoua la tête.
« Non, j'étais loyal. »
« J'ai du mal à croire à ton histoire, »
souffla Lelaine.
Moi, je la crois,
lâcha Siouan.
Shemerin a souvent montré son allégeance à Elaïda.
C'est un précédent dangereux,
fit Magla.
Que la lumière brûle mon âme, mais ça l'est.
Exact,
fit Romanda, en regardant la petite bosse sous la toile approcher d'elle.
Je soupçonne Elaïda d'avoir voulu faire un exemple avec notre pauvre Shemerin. Une façon d'habituer la Tour Blanche à la notion de destitution d'une sœur, histoire de pouvoir s'en servir ensuite contre ses ennemis.
Il y eut une longue pause. Si Elaïda gardait son titre, une fois les Aes Sedai réconciliés, les représentantes qui soutenaient Egwene seraient en tête de la liste des sœurs dégradées.
« C'est une souris ?»
demanda Siouan en baissant les yeux.
« Non, c'est trop petit, »
répondit Lelaine.
« Et ça n'a aucune importance. »«
Petit ?» fit Siouan en se penchant en avant. Romanda plissa les yeux. La bosse semblait avoir grossi, en effet. Elle se gonfla encore, puis la toile se déchira et un gros cafard, au moins de la taille d'une figue, en émergea. Dégoûté, Romanda eut un mouvement de recul. Le cafard se mit à ramper sur la toile, ses antennes frémissant. Siouan enleva sa chaussure afin de l'écraser. Mais la toile se gondola de nouveau, près de la déchirure, et un autre insecte noir en jaillit. Un troisième suivit. Puis toute une colonie, recrachée par la toile comme une infusion trop chaude par un buveur. Très vite, le sol fut couvert d'un tapis vivant d'insectes qui se bousculaient dans leur hâte de sortir du sol. Les sœurs se levèrent, renversant leur siège quand elles étaient révulsées. Peu après, des champions entrèrent sous la tente. Le colosse Rorik, lié à Magla, et Burin Shaeren, tout aussi impressionnant, qui protégeait Lelaine. Épais au point dès qu'ils avaient entendu des cris, les deux hommes semblaient déconcertés par les cafards. Comme pétrifiés, ils fixaient le tapis vivant sans cesse alimenter en nouveaux insectes. Alors que Shariam sautait sur sa chaise, qu'elle n'avait pas renversée, Siouan canalisa le pouvoir et entreprit d'écrabouiller les cafards. Opposé à l'utilisation de la source pour tuer, même de la vermine, Romanda s'unit pourtant au Saïdar. À grands coups de tissage d'air, elle aplatit des centaines d'insectes, mais d'autres arrivaient une seconde après. Quand le sol fut entièrement recouvert, les Aes Sedai sortirent, en écrabouillant des insectes sous leurs semelles. Derrière elle, Rorik tira le rabat, mais bien entendu, ça n'empêcherait pas les envahisseurs de sortir. Très pâle, Romanda se passa nerveusement les mains dans les cheveux, juste au cas où. À l'idée que des cafards aient pu ramper le long de son corps, elle se sentait défaillir.
« Dans la tente, tu as des objets qui te sont chers ?»
demanda Lelaine. Par transparence, on voyait des insectes ramper le long des cloisons. Romanda eut une pensée émue pour son journal, mais après une telle infestation, il n'aurait plus été question qu'elle le touche.
« Rien que j'ai envie de garder après ça, »
répondit-elle en tissant un flux de feu.
« Et rien qui soit irremplaçable. »
Les autres imitant la propriétaire des lieux, la tente s'embrasa comme de la paille. Prudent, les champions reculèrent. Romanda crut entendre craquer les carapaces carbonisées des cafards. Pour se protéger de la chaleur, ses compagnes et elles reculèrent aussi. De toutes les tentes environnantes, des sœurs sortirent pour voir ce qui se passait.
« Ce n'était pas naturel, »
avança Magla.
« Des cafards à thorax à quatre segments. Les marins envoient sur les bateaux qui reviennent de Shara. »«
Ce ne sont pas les pires créatures des ténèbres que nous ayons vues, »
dit Siouan.
« Et nous en verrons de pires, croyez-moi. »
Elle regarda Shemerin.
Viens, je veux que tu me fasses ce plan. »
Les deux femmes s'enfuirent avec les champions et les autres sœurs, qui avertiraient tout le monde de l'intrusion du ténébreux dans le camp. Romanda resta seule pour regarder sa tente brûler. Très vite, il n'en subsista plus que des cendres.
« Lumière, »
pensa-t-elle.
« Et Gwen avait raison. C'est pour très bientôt. »
Et la mère était incarcérée à présent. Dans le monde des rêves, lors d'une réunion du hall, elle avait rendu compte du dîner catastrophique d'Elaïda et des conséquences de sa rébellion ouverte. Pourtant, elle refusait toujours qu'on vienne la secourir. Munis de torches, des champions patrouillaient dans le camp, au cas où cette attaque n'aurait été qu'un prélude. La fumée lui agressant les narines, Romanda songea qu'elle contemplait les cendres de tout ce qu'elle avait jamais possédé en ce monde. La tour devait être réunifiée, à n'importe quel prix. Pour que ça arrive, Romanda était-elle disposée à s'incliner devant Elaïda? Remettrait-elle une robe d'acceptée, si ça pouvait permettre que les sœurs soient unies lors de l'ultime bataille? Impossible de se décider, et c'était presque aussi perturbant que l'invasion de cafards.